Chers camarades, chers amis, je voudrais d'abord vous remercier tout simplement d'être là, fidèles à ce rendez-vous, pour partager ce moment fraternel et pour prendre le temps de discuter de la situation et des perspectives politiques pour les travailleurs. Il est de notoriété publique que les chiffres officiels du chômage sont systématiquement truqués, quel que soit le gouvernement en place. Mais le bug de SFR a révélé au grand public qu'il suffisait de louper ou de ne pas répondre à un SMS pour se faire radier. C'est ce qui est arrivé à près de 41 000 chômeurs. Le bug informatique de SFR a eu au moins le mérite de mettre à jour tout l'arsenal juridique et administratif qui a été inventé au fil des années pour faire baisser artificiellement le chiffre des chômeurs. La conséquence directe, c'est que les chômeurs se retrouvent injustement privés d'allocations et que le chômage, lui, ne recule pas. Malgré tout, le gouvernement continue à tenir ses discours rassurants sur les possibilités que l'économie renoue avec la croissance. Je ne vais pas m'étendre ici pour savoir si c'est vrai ou pas. D'abord parce que personne n'en sait rien, pas plus ceux qui sont au gouvernement que les experts économiques. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de se laisser distraire par tous ces pronostics économiques, parce que même si reprise il y a, qu'est-ce que cela changera pour le monde du travail ? Les travailleurs n'ont que faire d'une reprise si les licenciements et les fermetures d'usines continuent, si les salaires restent bloqués, si les chômeurs continuent d'être condamnés au petit boulot. Qu'il y ait 0, 0,5 ou 1% de croissance, qu'est-ce que cela changera si le gouvernement continue ses attaques contre les travailleurs et les retraités ? Par contre, les PDG des grands groupes peuvent se montrer confiants et optimistes. Même au plus fort de la crise, ils ont réussi à sauver leurs profits et à garantir les dividendes à leurs actionnaires. Au pire moment de la crise financière, les affaires ont continué, même pour les banques, pourtant responsables du crack, qui ont été aidées, mises sous perfusion d'argent public. Bien sûr, les gros requins en ont profité pour manger les plus petits. Mais si certains y ont perdu, d'autres y ont gagné et globalement, en pleine crise économique, les capitalistes ont réussi à augmenter leur fortune. L'année dernière, alors qu'on nous disait que ça allait encore très mal pour les affaires, alors qu'on a compté chaque jour 1000 chômeurs de plus, les 500 plus grandes fortunes ont trouvé le moyen d'augmenter leur fortune de 25%. Alors oui, la bourgeoisie se porte très bien, mais elle a laissé derrière elle un champ de ruines avec des travailleurs condamnés au chômage et à la misère, avec des usines fermées et des régions entières sinistrées. Les grands groupes capitalistes ont profité de la crise, parce qu'ils en ont profité pour restructurer, licencier, fermer les usines soi-disant devenues moins rentables et intensifier l'exploitation. Ils en ont profité pour recevoir des aides et des exonérations supplémentaires en tout genre. Ils en ont profité pour faire reculer les salaires, pour faire reculer les droits des travailleurs des années en arrière, de façon à les transformer en main-d'œuvre malléable et corvéable. Tout cela avec la complicité d'abord du gouvernement Sarkozy, puis depuis un an et demi avec l'aide servile du gouvernement Hollande. Oui, la crise a bien profité au grand patronat et il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Par contre, toutes ces attaques ont divisé et affaibli le monde du travail. Le grand patronat a pris l'avantage. Et même en admettant que la croissance revienne, il ne cédera ce qu'il a gagné. Il ne le lâchera qu'à condition que les travailleurs se battent pour leur dû. Même aujourd'hui, alors que le grand patronat et le gouvernement se veulent rassurants, ils nous expliquent qu'il faut encore faire des sacrifices. Le pire est passé, disent-ils. Mais ils continuent de s'en prendre aux salaires, aux emplois et aux conditions de travail. Au nom de la compétitivité, ils se sentent tout permis. Demander à travailler plus tout en étant payé moins est devenu maintenant banal. D'autant plus banal que grâce au gouvernement Hollande et Rau, c'est même devenu la loi. Une loi exigée par le MEDEF et votée par les députés de droite et ceux du Parti Socialiste. Aujourd'hui, tous les grands patrons veulent leur accord de compétitivité qui forcera les salariés à travailler plus pour moins de salaire, qui forcera les ouvriers à la mobilité et à l'aggravation de la flexibilité du temps du travail. Et pourquoi le patronat se gênerait-il quand le gouvernement fait de même dans la fonction publique ? Pour les grands actionnaires, pour le grand patronat, pour le gouvernement, le pire est peut-être passé, mais pour les travailleurs, il est à venir s'ils se laissent faire. La classe ouvrière est attaquée par tous les bouts. Chômage, flambée des prix, aggravation des conditions de travail, sans oublier les impôts. Ces fameux impôts. Combien de travailleurs ont reçu un choc en découvrant leur avis d'imposition et ont cru à une erreur du fisc? C'est un coup de massue pour plus d'1 million de personnes qui sont devenues imposables et qui se retrouvent en plus à devoir payer la redevance télé et la taxe d'habitation. Mais c'est aussi un drame pour tous les travailleurs et retraités modestes qui se retrouvent à devoir payer 100, 200, 300 euros alors qu'ils se serrent déjà la ceinture. De plus, tout le monde sait que cela va empirer dans les mois à venir parce que le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA au 31 janvier, de baisser encore le plafonnement du quotient familial, etc., etc. Car contrairement aux mensonges du gouvernement, il n'y aura pas de pause fiscale en 2014. Les travailleurs et les plus modestes vont bien avoir à payer encore plus d'impôts, ne serait-ce que pour payer le cadeau de 20 milliards que le gouvernement Hollande fait au patronat chaque année au nom de la compétitivité. Mais l'autre aspect, les fameuses économies mises en avant par le gouvernement dans son budget sont tout aussi révoltantes. Ce ne seront pas 15 milliards d'économies pour la population, ce seront 15 milliards de coupes dans les services publics, dans les collectivités locales, des milliards de coupes dans les budgets sociaux et de la santé. Combien de suppressions d'emplois seront encore programmées dans les hôpitaux? Combien de communes manqueront d'argent pour restaurer les écoles ou pour aider les familles à payer la cantine? Combien de départements réduiront leurs aides sociales? Combien d'associations seront sacrifiées encore parce qu'elles n'auront plus les mêmes subventions? Ces 15 milliards ne sont pas des économies pour les plus pauvres, mais de nouveaux sacrifices. Alors, il faut beaucoup de cynisme pour oser parler de bout du tunnel comme le font certains ministres ou députés du Parti Socialiste au moment même où ils s'attaquent une fois de plus aux retraites. Où est-il le bout du tunnel pour tous ceux qui voient leur retraite reculer et diminuer de réforme en réforme? Et ne parlons pas des jeunes qui se disent qu'ils devront cotiser toute leur vie sans même pouvoir être sûrs d'avoir une retraite. Il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps est devenu le leitmotiv de tous les dirigeants, gauche-droite confondus. Mais près de 5 millions de chômeurs voudraient travailler tout court. Eh bien, avant de forcer les anciens à crever au boulot ou au chômage, il faut embaucher les jeunes, arrêter les licenciements. Voilà ce qui remplirait les caisses de retraite. Les socialistes, qui avaient dénoncé la réforme des retraites de Sarkozy quand ils étaient dans l'opposition, sont en train de l'entériner et de l'aggraver. Nous demandons de nouveaux efforts, mais avec plus de justice, prétendent-ils au gouvernement. Mais quelle justice ? Même l'engagement de faire payer autant le patronat que les salariés, Hollande ne l'a pas tenu. Pour les patrons, l'augmentation de cotisations sera compensée par la baisse des cotisations familiales quand les travailleurs, eux, paieront plein pot. Quant à dire que l'âge de départ de 62 ans n'est pas touché, c'est se moquer du monde. Avec 43 ou 44 annuités de cotisation, il faudrait commencer à travailler à 18 ou 19 ans, n'avoir aucune interruption pour toucher une retraite complète à 62 ans. Tout est révoltant dans cette nouvelle attaque contre les retraites, jusqu'à la façon sournoise qu'a le gouvernement de voler les retraités en décalant la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre. Ce qui n'est en apparence qu'un petit report de date est en fait un racket à grande échelle puisque le gouvernement volera 1,5 milliard d'euros dans les poches des retraités. Vous savez, alors si les ministres et la bourgeoisie ont sans doute de quoi être optimistes, les travailleurs, eux, ont vraiment, vraiment de quoi être en colère. Avec la crise et avec la complicité du gouvernement de droite puis de gauche, le grand patronat a aggravé l'exploitation. Il a perfectionné son système pour pressurer encore plus les travailleurs, pour les payer moins. Il a marqué des points dans la guerre de classe et il a pris l'avantage parce qu'il a désormais de nouvelles marges de manœuvre. Et cet avantage-là, il ne le lâchera qu'à condition que les travailleurs se battent pour leur dû. Autrement dit, les quelques milliers de grands bourgeois et de spéculateurs qui ne sont que des parasites ont été bichonnés quand les travailleurs qui forment la seule classe productive, qui constitue la base indispensable au fonctionnement de la société, ont été affaiblis et acculés à la survie. Alors, que les travailleurs fassent entendre leur voix, Leur intérêt d'exploiter est aujourd'hui une nécessité vitale pour eux, mais aussi pour la société et son fonctionnement. Oui, les travailleurs n'ont aucune raison de se taire. Les travailleurs ont le droit moral de se défendre, ils ont le droit moral de se battre pour ne plus reculer, pour rétablir leurs conditions d'existence. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est de stopper l'hémorragie des licenciements. Parmi ceux qui ont été licenciés ces dernières années, combien ont épuisé leurs droits au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Combien sont menacés de perdre leur toit après avoir perdu leur emploi? Et combien parmi eux perdent complètement pied? Oui, empêcher que l'on tombe au chômage est une question de survie. Au nom de la protection de la vie humaine, il est interdit aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver. Eh bien, il faut se battre pour qu'au nom de la protection de la vie, il soit interdit aux patrons de licencier. Pour combattre et faire reculer le faibli, la classe ouvrière, il faut opposer à l'augmentation constante de la charge de travail la répartition du travail entre tous sans diminuer les salaires. Il faut imposer aux patrons d'embaucher partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, où l'on se brise la santé dès l'âge de 30 ans. Mais il faut des embauches en CDI, de vrais emplois avec de vrais salaires. Il faut arrêter avec ces contrats précaires, intérims, apprentis, contrats en alternance, où tous les deux ans, un travailleur en remplace un autre au chômage. L'emploi et le salaire est la seule richesse des travailleurs. Le revendiquer, eh bien, c'est un droit légitime. Aujourd'hui, avoir un emploi et un salaire ne protège même plus des difficultés de la vie quotidienne. Et pour les chômeurs, c'est pire encore. Alors, pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net. Il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, tous les produits alimentaires, et ce, pour tous les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux. Alors concernant le fameux débat sur le travail du dimanche, ce débat en fait pose en réalité le problème du niveau général des salaires. Cela fait des années que les patrons mènent une politique de blocage et de baisse des salaires. Si aujourd'hui, des salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse. S'ils demandent à passer leur dimanche à vendre du matériel de bricolage ou des parfums à 1h du matin sur les Champs-Élysées, plutôt que de se reposer en famille, ce n'est pas pour l'amour du métier de la vente. C'est parce que les salaires de misère avec lesquels ils sont payés, aggravés par des contrats à temps partiel imposés, ne leur laissent pas le choix. Que les patrons augmentent immédiatement de 10-20% ces salaires et on verrait qu'ils manquent de volontaires. La vérité, c'est que le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires ou le travail de nuit, n'ont rien à voir avec du volontariat. C'est pour les travailleurs sous-payés une situation imposée. Nous ne faisons pas du repos dominical un principe, pour autant. À l'origine de l'interdiction du travail du dimanche, c'est la volonté du patronat et du clergé d'inciter fortement les travailleurs à aller à la messe afin de tenter de les laisser sous l'influence de la religion qui prêchait la soumission. Avec ça, nous ne sommes pas d'accord. Une société qui ne serait pas basée sur le profit pourrait mettre en place une toute autre organisation des services. Mais aujourd'hui, ceux qui prêchent la fin de l'interdiction du travail du dimanche le font au nom de la liberté patronale de profiter que les travailleurs soient acculés et sous-payés pour intensifier l'exploitation et pour faire plus de fric. Eh bien avec ça, nous ne serons jamais d'accord. Les travailleurs ne pourront pas résoudre le problème du blocage ou de la baisse des salaires avec des arrangements individuels. La seule solution est le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires. Mais une augmentation de salaire ne peut être durable que si elle n'est pas mangée, rattrapée par l'inflation. Alors face à l'augmentation du coût de la vie, pour garantir notre seule richesse, notre salaire, nous devrons imposer que nos salaires suivent automatiquement le coût de la vie. Vous savez, camarades, ce sont des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est encore trop pour la bourgeoisie. Pour fin de nous recevoir, la bourgeoisie dit qu'elle n'a plus d'argent, qu'augmenter les salaires n'est pas possible, qu'embaucher est impossible, que le pays a un problème de compétitivité. C'est la raison pour laquelle les travailleurs n'auront pas d'autre solution pour imposer l'interdiction de licencier et l'indexation des salaires sur l'inflation que de contrôler les comptes et toutes les décisions des entreprises. Parce que comment faire confiance et croire sur parole le grand patronat ? Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation, mais trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Il n'y a aucune raison de le croire. Souvenez-vous comment la direction de Peugeot Citroën avait juré la main sur le cœur, il y a 2 ans, qu'il n'était pas question de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Alors même que la CGT de l'usine avait intercepté et rendu public un document interne, confidentiel, qui prouvait le contraire. Et vous connaissez aujourd'hui la suite. PSA déroule aujourd'hui la fermeture d'Aulnay, une usine de 2800 travailleurs dans un département sinistré. Ce que bien des travailleurs ont appris dans cette bagarre, dans cette lutte contre ce patron, c'est que de ce patron et du coup de tous les patrons, et qu'il ne faut jamais leur faire confiance, surtout quand ils renouvellent leurs promesses, comme vient de le faire le PDG de PSA, en affirmant qu'il ne fermera aucune nouvelle usine dans les 3 ans, alors qu'il annonce déjà une nouvelle baisse d'effectifs à PSA Rennes, alors même que le plan de licenciement de 1400 travailleurs n'est même pas encore fini. Dévoiler les plans secrets des patrons, ça ne remplace pas les luttes qu'il y a à mener pour les empêcher, mais cela les facilite. Cela permet de démontrer que les licenciements ne sont pas imposés sous la pression de soi-disant difficultés économiques, mais qu'ils sont pensés, programmés pour accroître la rentabilité et les dividendes des actionnaires. Briser le secret des affaires, faire circuler les informations entre travailleurs et les rendre publiques est le seul moyen de vérifier, de savoir ce qu'il en est réellement des comptes, de l'argent qui entre et qui sort. Cela donne des arguments, des armes aux travailleurs pour se battre. Le groupe PSA voudra mettre en place un accord de compétitivité, c'est-à-dire de maintien des profits. Pour justifier les heures supplémentaires gratuites, les journées de chômage, la taxe sur les congés, la direction assène un chiffre magique. Une journée de stock de véhicules sur les parcs des usines lui coûterait 70 millions d'euros par jour. Mais d'où sort ce chiffre ? Comment a-t-il été calculé ? Le patron refuse de répondre. Eh bien, pour savoir la vérité, les travailleurs n'auraient pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes, éplucher toute la comptabilité, et là, ils auraient ainsi la preuve que tout est faux. C'est la même chose pour faire embaucher un apprenti ou un stagiaire, ou pour obtenir une augmentation de salaire. Cela nécessite de s'immiscer dans tous les comptes de l'entreprise, de contrôler les tirs de patron, de le mettre sous surveillance. Les travailleurs ne pourront pas se battre efficacement contre les licenciements, pour leur salaire, pour leurs droits, sans demander des comptes à la bourgeoisie. Mais mener à bien les luttes quotidiennes nécessite aujourd'hui de ne pas tomber dans le piège de la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie, du pays, de ses travailleurs, de ses chômeurs, de ses jeunes et de ses vieux, dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de la compétitivité devait être le seul et unique objectif de toutes les politiques publiques. Eh bien, depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes s'y sont mis aussi. Certains dirigeants syndicaux même leur ont emboîté le pas, sans compter la multitude d'experts et journalistes économiques qui le répètent une centaine de fois par jour, comme s'ils voulaient l'enfoncer dans tous les esprits à coups de marteau. Mais qu'est-ce que les travailleurs ont à gagner dans cette bataille de la compétitivité ? Aujourd'hui, en 2013, celui qui revendique un emploi en CDI, celui qui revendique la retraite pleine et entière à 60 ans avec 37 ans et demi d'annuité de cotisation, celui qui revendique un salaire digne de ce nom est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. Ce qui existait il y a 20 ans dans ce pays est devenu une folie utopique. Voilà le résultat de la course de la compétitivité. Gouvernement et patronat veulent nous faire croire que la compétitivité est la clé du progrès et de la prospérité pour tous. En réalité, c'est tout le contraire. Pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'aggravation de l'exploitation, le travail à la tâche, les salaires de misère. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. Les travailleurs n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron saura arracher au détriment d'autres travailleurs ? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires que son patron fera ? Non. Les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de la compétitivité. Ils n'ont pas à accepter d'être mis en concurrence les uns contre les autres. Ils doivent, au contraire, revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Les combats des travailleurs pour leurs revendications vitales ne pourront être menés jusqu'au bout que si les travailleurs ont conscience qu'ils ne doivent pas laisser les capitalistes dire et faire ce qu'ils veulent. Que s'ils ne craignent pas de contester à la bourgeoisie son droit de propriété et de décision sur les entreprises. Que s'ils ne craignent pas de s'attaquer à la propriété du capital. Si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils dégagent, qu'ils laissent la place. Si le système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi à vivre, eh bien il faut le renverser. Comme disait Marx, dans la société capitaliste, les travailleurs n'ont à perdre que leur chaîne. Si encore ces PDG, ces grands dirigeants qui se relaient dans les conseils d'administration dirigeaient bien, si leur économie tournait rond, les travailleurs pourraient s'interroger. Mais ce n'est pas le cas. L'économie capitaliste, basée justement sur la concurrence, sur la compétition de tous contre tous, est une jungle. C'est une économie ingouvernable. Chacun prend ses décisions en fonction de ses intérêts et de ses calculs propres. S'il est plus profitable de produire et vendre des armes, va pour le commerce des armes. S'il est plus rentable de spéculer que d'investir, va pour la spéculation, quitte à déclencher famine et crise mondiale. Oui, l'organisation capitaliste est une organisation fondamentalement, génétiquement irresponsable. Qu'elle soit incapable d'assurer la survie de ceux qui la font tourner, les travailleurs, eh bien ça la condamne. Alors nous en sommes convaincus, les travailleurs réagiront tôt ou tard face aux attaques qui leur sont portées. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a portées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour défendre leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu des idées bien plus générales, celles du caractère injuste, anachronique de l'organisation capitaliste. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation, à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. Il a été porteur d'une contestation radicale de l'organisation économique, de la perspective de sa destruction et de son remplacement par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ses idées et de ses valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est malheureusement affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers, du Parti socialiste d'abord, puis plus tard du Parti communiste, qui se sont intégrés dans la société bourgeoise et qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. En justifiant leur participation gouvernementale, en justifiant la politique anti-ouvrière qu'ils y menaient, ils ont distillé au sein de la classe ouvrière les idées et les valeurs bourgeoises. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne, considèrent que l'économie doit être compétitive, que la dette doit être remboursée, qu'il ne faut pas trop taxer les riches. Au point qu'aujourd'hui, les idées nationalistes et protectionnistes étrangères au mouvement ouvrier sont devenues courantes. Depuis longtemps, le Parti socialiste est dévoué corps et âme à la bourgeoisie. Mais il essayait encore de se différencier de la droite, en parole, en faisant entendre ne serait-ce que de vagues idées humanistes. Ce n'était certes que des mots, mais aujourd'hui il n'en reste même plus rien. C'est ainsi que Valls, ministre de l'Intérieur, peut déclarer, droit dans ses bottes, que les Roms ne peuvent pas s'intégrer et qu'ils doivent être chassés. Sans que cela n'émeuve grand monde au Parti socialiste, Valls fouille dans les poubelles du Front National. Car faire croire que 20 000 Roms, 20 000, est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants est écœurant. Rocard expliquait déjà il y a 20 ans qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est au nom de ce principe que l'Europe s'est transformée en forteresse, en érigeant des barbelés, en essayant de faire de la Méditerranée une mer infranchissable. La suite, on la connaît. Ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui risquent leur vie pour passer les frontières et qui la perdent, comme ce fut le cas cette semaine à Lampedusa. C'est une politique criminelle. Ils enferment les peuples dans la misère, alors que la misère, eh bien, il faut la combattre. Il faut la combattre de façon que la planète devienne vivable pour tous et que l'on puisse, et que où que l'on naisse dans cette planète. Mais la misère, elle se combat. Le Parti socialiste, lui, y a renoncé, et bien pas nous. À la trahison des intérêts de la classe ouvrière par les partis ouvriers s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Alors je parle ici des directions nationales des syndicats qui, dans le meilleur des cas, font mine de s'opposer sans réellement armer les travailleurs politiquement et, au pire, justifient et appuient les attaques du gouvernement et du patronat. La perte des repères de classe, ces trahisons successives ont au fil des décennies dérouté et déboussolé les travailleurs. Que certains parmi les travailleurs envisagent de voter pour le Front National, l'ennemi ouvert des travailleurs, ne serait-ce que pour donner un coup de pied dans la fourmilière, comme ils disent, donne la mesure du recul de la conscience de classe. Ce n'est certes pas au nombre que nous sommes que nous pourrons inverser la tendance et faire reculer les idées réactionnaires. Celles-ci se nourrissent de la situation objective, car c'est sur le chômage, l'isolement et la misère que prospère le chacun pour soi, la délinquance, la violence et son pendant tout aussi réactionnaire, le rejet des autres et la xénophobie. Mais le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuses et indispensables. Alors il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent. Une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vide l'exploitation. Un parti qui prenne systématiquement le contre-pied des idées et du langage patronal. Un parti qui aide les travailleurs à se battre pour leurs propres intérêts en dénonçant le capitalisme, la propriété bourgeoise, les lois du profit. La victoire des luttes, y compris les plus petites, sont intimement liées à la conscience des travailleurs d'avoir à mener une lutte à mort contre la bourgeoisie. Elle est liée à la présence dans la classe ouvrière des idées et des perspectives communistes révolutionnaires. Le combat des travailleurs pour leurs objectifs vitaux et pour renverser la société capitaliste ne font en réalité qu'un. Alors, il faut continuer à faire entendre cette voix, comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Il faut nous saisir des occasions politiques qui nous sont données, comme c'est le cas avec les élections municipales et européennes. Pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste et sur le terrain de la bourgeoisie, Et pour qu'ils puissent faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, nous essaierons d'être le plus présent possible dans ces deux élections pour l'année qui vient. Les travailleurs deviendront une force politique capable de peser, quand ils opposeront à l'union nationale et au poison de la préférence nationale la préférence de classe, quand ils diront les exploiter d'abord. Ils deviendront une force politique quand ils auront conscience qu'ils doivent se battre pour le pouvoir parce que la bourgeoisie n'a plus de légitimité pour gouverner et qu'ils peuvent collectivement diriger mille fois mieux. Ils devront prendre la place pour organiser l'économie sur de tout autre base, sans la recherche du profit, sans la concurrence, sans les lois du marché. Les grands et les petits combats se font d'abord dans les têtes, dans la conscience que les travailleurs ont de leur capacité et de leur rôle dans la société. C'est sur ce terrain-là, oui, nous pouvons être utiles et préparer l'avenir. Vous savez, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas empêcher, mais il y en a au moins une qui dépend de nous. C'est de dire ce que nous pensons, c'est d'affirmer notre politique communiste révolutionnaire, c'est d'être fier de nos idées et de les faire vivre parmi les travailleurs. Alors camarades, je vous souhaite une bonne fête et bon courage pour poursuivre le combat. Vive la classe ouvrière, vive le communisme !